Bonjour à toutes et à tous, au menu du mag aujourd'hui comme tous les vendredis, Chalor, avec Emeline, comportementaliste félin, une invitée cette semaine avec Emeline. Et puis pour commencer dans un instant après Delgrès, troisième épisode de notre série avec le collectif pour la préservation des terres agricoles du Ruthénois. Au menu cette semaine, c'est les zones d'activité. Un peu ça va pour le collectif, mais plus ça passe pas. Bonjour à tous, troisième épisode, troisième rendez-vous de notre série hebdomadaire avec l'association Le Collectif pour la préservation des terres agricoles du Ruthénois. Dans la première émission, on s'est intéressé à la question de la biodiversité. Dans la seconde, la semaine dernière, on a parlé d'une route dont le collectif ne veut pas. Une route pour relier de mémoire Flavin au futur éventuel parc des expositions de Malan, contre lequel le collectif se soulève hein, à plusieurs égards. Aujourd'hui, cette semaine, avec moi dans les studios, Alexandra Dubois. Bonjour Alexandra.
Bonjour David.
Alexandra, vous êtes membre du collectif pour la préservation des terres agricoles du Ruthénois. Et cette semaine, vous avez eu envie d'évoquer avec nous la thématique des zones d'activité autour de l'agglo en particulier, parce qu'il y en a partout en France, avec une première question très générale, faut-il encore des zones d'activité supplémentaires par chez nous, Alexandra? Mais j'ai une petite idée de votre réponse.
Bien, en tout cas, au collectif, on estime qu'il n'a pas besoin de zones supplémentaires sur l'agglomération de Rodez, et même au-delà.
Parce que là, il y en a une de prévu autour du parc des expositions de Malan. Enfin, on parle du parc des expositions, mais ça va au-delà d'un parc des expos, le chantier, entre
guillemets. Finalement, le parc des expositions, c'est qu'une petite partie. La zone de Malan, la zone à aménager, c'est 25 hectares et est prévu l'aménagement d'une zone d'activité à vocation commerciale, artisanale de 18 hectares.
D'accord. Voilà. Oui, donc c'est même l'essentiel de l'espace occupé.
Oui, c'est une assez grande zone.
Moi, je me rends pas
avec
compte.
De nombreux lots. 59 lots, il me semble, prévus pour accueillir des entreprises et pour accueillir des services, des commerces, pour le public qui va fréquenter cette zone et au moment des événements prévus au parc des expositions.
Et la zone d'activité autour du parc des expos, elle est prévue pour émerger, enfin, si votre combat échoue, en même temps que le parc des expos en 2023, ou c'est à plus long terme, c'est petit à petit que ça se met en place, ça, vous savez ?
La zone d'activité, non, ça, c'est prévu pour avant. Le terrassement est déjà commencé. Les lots, alors je ne sais pas exactement quand est-ce qu'ils seront prêts, mais je suppose que ça devrait prendre moins de temps qu'un parc des expositions qui n'est pas du tout encore en construction.
Bon, on a compris que vous étiez opposé. Plusieurs raisons à cela. On va commencer avec la première, pour commencer pour vous. Je ne sais pas quel sujet ça concerne, l'économie.
Alors, nous, on est opposé à l'installation de cette zone, enfin la construction de cette zone d'activité, car on sait qu'il existe de nombreux lots actuellement sur d'autres zones de l'agglomération, des lots inoccupés. Il en existe, je peux même vous donner un chiffre, existe 65 lots inoccupés actuellement sur l'agglomération. Donc on se demande pourquoi encore de nouveau construire, aménager des zones d'activité supplémentaires. On s'interroge.
65, excusez-moi, je vous cherche un peu.
Oui. Et
ce chiffre-là, vous êtes allé compter dans les champs, enfin dans les zones d'activité?
Ah non, alors... En fait, sur le site de l'agglomération et sur les sites des mairies de l'agglomération, il y a toujours un onglet, une catégorie, développement économique. Et donc, depuis quelques mois où on travaille sur ce dossier, on a essayé de comprendre un petit peu, de connaître notre territoire, de voir quelle offre il y avait en termes d'accueil justement des entreprises. Et il y a une cartographie, il y a des cartographies avec des codes couleurs et on s'est rendu compte au fur et à mesure de nos recherches qu'il y avait des zones d'activité qui n'étaient pas du tout remplies, qui n'étaient pas occupées. Enfin, certaines sont à moitié occupées. Il y a des, en tout cas, en comptabilisant, il y a un nombre assez impressionnant de lots vides. Et alors, le plus incroyable dans cette histoire, c'est qu'il y existe depuis 2011 une zone d'activité non loin de Malan, à 7 km exactement le long de la RN88, qui est une zone aménagé pour accueillir des entreprises depuis 2011 et que cette zone encore offrait 18 lots et il existe encore, on a encore 14 lots inoccupés. Donc nous, voilà, enfin on a un petit peu fait des comptes et on s'est dit que c'était pas tout à fait normal d'envisager encore d'artificialiser des sols pour alors qu'il existe des lots vides. Donc cette zone d'activité dont je vous parle, c'est aux Molinières. Ça s'appelle la zone d'activité de Montvert. Donc ça, on l'a trouvé sur le site de la mairie de Luc-la-Primaube. Dans l'onglet développement économique, on a même fait des captures d'écran parce qu'on s'est dit c'est pas possible. Pourquoi des lots vides à 7 km? Pourquoi continuer à aménager de cette manière? Et récemment, on s'est rendu compte non seulement que deux lots, comme par magie, avaient été réservés. Et puis, depuis quelques temps, on ne peut plus accéder à cette cartographie. Le lien est cassé.
Ah bah, il y a un bug, ça arrive.
Oui, je pense. Je ne veux pas faire de procès à personne et de mauvaises intentions. Excusez-moi.
Donc oui, pour vous...
Je remarque. C'est une remarque.
Marquez que c'est une panne, c'est des choses qui arrivent.
Oui, bien sûr. Ah non, mais l'informatique, il faut maîtriser quand même. Donc, c'est pas évident.
D'accord. Donc, pour vous, pas la peine d'une zone d'activité supplémentaire à Malan, puisqu'il y a plein de places dans les zones qui existe déjà sur Odessa Glo. Mais alors, Alexandra, j'ai envie de vous dire, alors peut-être, bon, vous avez raison, je vous crois, hein, sur parole, mais je me dis, pour les gens qui voudraient s'installer, peut-être qu'ils auraient envie de s'installer à Malan, parce qu'il y aura un parc des expositions, tout neuf, tout beau, on va là, et on n'a pas envie d'aller dans le vieux truc à côté, même s'il reste des places moins chères.
Mmh, ça, je comprends tout à fait. Enfin, c'est l'attractivité. Maintenant, il faut peut-être que ces personnes-là... reste dans le domaine du raisonnable parce que voilà, il existe des lots vides, mais utilisons ces lots vides, restaurons-les, rendons-les attractifs. Je pense que ça, c'est tout à fait possible, justement, pour proposer cette offre-là aux entreprises qui auraient envie de s'agrandir, parce que ça, c'est une réalité aussi et c'est très bien. C'est, voilà, nous, on est tout à fait pour développer. L'activité, il n'y a aucun problème, mais pas à ce prix-là. Voilà. Parce que bon, ça quand même, non seulement c'est un prix, c'est un prix économique. Donc, on communique sur ces chiffres depuis le début de notre lutte, les 47 millions d'euros. On peut s'interroger sur, vraiment sur le sérieux, enfin, de dépenser de l'argent public alors qu'il existe déjà des zones toute prête à accueillir des entreprises.
47 millions, c'est le
c'est prix. Le total du projet.
Du grand projet, voilà. Parc des expos, voilà. Zone d'activité. Voilà. Oui, vous comptez les routes ou pas?
Enfin, ou la route, on compte 18 millions de routes.
Ouais. Ça va être une belle route.
Voilà. Enfin, ça fait. Alors évidemment, la communication qui est faite, c'est vrai que ces lots-là, ils vont être vendus. Donc ils vont, oui. Mais ça reste quand même un investissement public, avec de l'argent de la région, du département, de l'agglomération. Voilà, ça reste de l'argent du contribuable et ça a des conséquences... sur l'artificialisation des sols, notamment.
L'artificialisation des sols, on va y revenir parce que c'est un autre argument, voilà. Pour vous contre ces zones d'activité et notamment celles annoncées du côté de Malan. Sinon, une zone d'activité, comme son nom l'indique, et vous avez parlé aussi d'attractivité, c'est vrai qu'on peut se dire, d'accord, mais enfin, effectivement, ça va faire travailler des gens, peut-être même faire venir des gens en Aveyron pour y travailler, on peut y voir aussi un intérêt.
Oui, voilà. Alors, donc, ce qu'on a déjà expliqué quand même, c'est que il n'y a aucune étude économique qui atteste, hein, qui démontre qu'il y a un réel besoin et que ça va, rapporter de l'argent, qu'il va y avoir des retombées économiques. L'étude économique qui existe, elle porte sur le parc d'exposition. Les études économiques portent sur le parc d'exposition, mais par exemple sur la zone aménagée, nous, à notre connaissance, il n'en existe pas. Et c'est quand même une zone où il va y avoir du commerce.
D'accord.
Et une offre de services. Il me semble que offrir sur la périphérie de Rodez, dans la ceinture verte de Rodez, plus de services en termes de restauration, d'hôtellerie pour accueillir ce public risque et attirer les gens des alentours, attirer les habitants, faire un lieu vivant. Ça semble logique que ça, à un moment donné, ça vide l'activité des centres-villes.
Ouais, d'accord.
Donc de Rodez, de Luc-la-Primaube.
Vous craignez
donc
que...
l'activité va se déplacer comme ça s'est passé pour la zone de l'Estréniol et la zone commerciale de l'Estréniol, qui a affaibli les commerces du centre-ville de Rodez.
D'accord. La zone de l'Estréniol, vous me corrigez si je dis une bêtise, c'est ce qu'on appelle Sébazac en Château, là, le Grand Leclerc.
Oui, pardon. Excusez-moi.
Ces commerces-là.
Oui, c'est cette zone de Sébazac.
D'accord. Donc vous pensez...
Qui continue à s'agrandir, qui continue à... Voilà. Qui continue dans cette logique d'agrandissement et d'offres, mais qui affaiblit, ça c'est reconnu, mais c'est partout en France, qui affaiblit le commerce de proximité, la dynamique des centres-villes et des quartiers, évidemment. Et c'est plus que regrettable, c'est plus que regrettable.
Alors, autre aspect de votre opposition à des zones d'activité supplémentaires sur Odessa Glo, en particulier celle annoncée à Malan, c'est, vous l'avez déjà évoqué, le terme d'artificialisation des sols.
Oui, c'est un terme un peu difficile, ouais, mais expliquer ce que c'est. Enfin, ouais. C'est l'artificialisation des sols, c'est aménager, imperméabiliser, aménager des zones et sacrifier des zones agricoles. Malan, c'était une zone agricole. Ouais. Malan devient une zone artificialisée, qui s'inscrit dans la logique de l'étalement urbain où on fait des routes, on construit des bâtiments fait reculer la nature, on sacrifie des zones, donc comme je vous le disais, des zones qui pourraient servir, des terres agricoles pardon, qui pourraient servir à alimenter en circuit court, en maraîchage, la ville ou l'agglo. On a plein d'idées pour utiliser ces zones agricoles, demander aux paysans déjà. Et ça correspond d'ailleurs aux enjeux actuels qui sont mis en avant de recul de la biodiversité, d'effondrement de la biodiversité au profit de l'étalement urbain, du béton, de la voiture à tout va. Il y a eu une convention citoyenne qui a mis en avant problématique.
Les 150
personnes qui ont travaillé sur les enjeux climatiques et environnementaux, qui ont montré que ce qui menaçait le plus la biodiversité, c'est l'étalement urbain, qui est de l'ordre de 25 000 hectares d'artificialisation par an. Et que là, il fallait vraiment arrêter avec ces projets d'artificialisation des sols. Ça a été mis en avant par la Convention citoyenne. Ça a été repris, mais très affaibli, par la loi climat récente, mais qui reste quand même un objectif de freiner cet étalement urbain. Elle prévoit de diviser par deux, sur les 10 prochaines années, l'artificialisation des sols par rapport à la précédente décennie. Mais nous, ce qu'on observe aujourd'hui dans notre territoire, c'est qu'il y a la possibilité d'utiliser déjà l'existant plutôt que de continuer à faire de l'étalement urbain.
Mais sinon, d'un point de vue plus local, l'installation de zones d'activité, zones commerciales, je sais pas, alors j'y connais rien moi dans ces trucs-là, mais il y a pas des plans comme un peu des plans de l'urbanisme, on peut construire une maison, ça marche comment ? On peut pas faire ce qu'on veut quand même.
Alors pour répondre justement à ces enjeux, il existe des stratégies de territoire qui sont inscrites dans des documents travaillés au sein des agglomérations, des intercommunalités et notamment au sein de la région. Il y a un schéma régional qui préconise et qui donne des orientations pour justement aménager le territoire en répondant aux enjeux aujourd'hui environnementaux et que doivent suivre, qui sont déclinés à l'échelle départementale, à l'échelle des agglomérations, du territoire. Voilà.
Mais alors, ces textes, excusez-moi Alexandra, enfin ces textes, ça préconise, ça prévoit, ça veut dire derrière qu'on fait ce qu'on veut.
Oui, on peut toujours réviser, modifier, pour s'arranger. C'est bien dommage, parce que ces textes-là ont une réelle importance.
Dans l'idée, oui, mais concrètement, ça oblige à rien.
Si, normalement, ça devrait obliger, d'ailleurs, par rapport à la zone de Malan, la zone d'activité, dans le texte qui prévoit l'aménagement de l'agglomération, c'est demandé textuellement de privilégier l'aménagement de la zone de Montvert dont je vous ai parlé tout à l'heure. La zone de Montvert, là, c'est la zone d'activité le long de la RN88, idéalement placée avec un échangeur très accessible et propose encore des lots non occupés. Il reste 14 places. Donc cette zone, c'était au départ une zone de 18 lots et qui a été voulue par monsieur Sadoul.
C'est le maire de...
Le maire de Luc Laprimaube, et qui est le premier promoteur de la zone aménagée de Malan.
On pourrait vous dire, je suis d'accord avec tout ça, il faut essayer de ne pas trop en faire, mais enfin, nous, en Aveyron et sur Rodez Aglo, on a de la marge.
On n'a pas de marge. Non. Non, en fait, on sait aujourd'hui que la densité commerciale de l'agglomération est supérieure à la moyenne nationale. On a suffisamment, on est bien au-delà de notre besoin en termes de zones commerciales et d'offres commerciales sur l'agglomération de Rodez.
D'accord. Mais alors, c'est-à-dire que quand vous parlez de densité commerciale, c'est par rapport à quoi ? Par rapport à la surface du territoire ?
Par rapport à la surface de commerce par rapport au nombre d'habitants.
D'accord, Alexandra. On arrive bientôt au terme de ce troisième rendez-vous avec le collectif pour la préservation des terres agricoles du Ruthénois. Je vais vous laisser le mot de la fin peut-être, Alexandra, mais je promets rien parce que je suis un peu bavard.
Alors nous, ce que nous voulons aujourd'hui, le collectif et je pense de nombreux habitants et habitantes qui nous contactent, de plus en plus nombreux, c'est que nous voulons que la population comprenne en quoi ce projet est complètement aberrant et inutile.
Le projet du
parc des expositions et cette zone d'activité dont je viens de parler.
Oui.
qui zone d'activité supplémentaire alors qu'il existe encore d'autres lots inoccupés sur la zone.
Bon, je pense qu'on a bien compris votre point de vue, en tout cas, Alexandra. On peut renvoyer peut-être pour terminer vers vos réseaux sociaux, réseaux tout court.
Voilà, donc oui, alors nous, on a un compte, une page Facebook, évidemment. On a un compte Instagram, un fil Twitter. Et surtout, on est hébergé sur un site web qui s'appelle CCAVS, qui accueille des collectifs de lutte. Donc nous, on a notre place, notre rubrique sur ce site. Et comme vous le savez, on a fait un recours en justice, donc on a mis à disposition... On a mis une cagnotte en ligne, pardon, ouais, excusez-moi.
Un recours au tribunal administratif de Toulouse.
Voilà, un recours donc pour faire face, contre le permis de construire de Malan, du parc de Malan, pour faire face aux frais de justice, on a mis en ligne une cagnotte pour faire un appel aux dons, et on a une pétition. Donc la cagnotte, c'est sur Hello Asso, Stop Malan. Collectif pour la préservation des terres agricoles du Ruthénois et une pétition également en ligne. Tout ça, on peut le trouver sur le site web sur lequel on est accueilli.
Ou la page Facebook qui s'appelle tous en tapant collectif pour la préservation des terres agricoles du
Ruthénois. Stop Malan ou avec des mots-clés type Stop Malan, collectif pour la préservation des terres agricoles du Ruthénois. Et on trouve toutes nos informations. Et aussi sur le site, ce que je tiens à rajouter, c'est qu'on trouve toutes les références des documents à partir desquels on travaille. Donc tout ce qu'on dit, on l'avance, on est parti de documents.
Officiels, voilà. Vous êtes venu avec plein de papiers, avec plein de tableaux, plein de chiffres, j'ai vu ça.
Voilà.
C'est bien noté.
Le fruit de nos enquêtes.
Oui, de votre travail aussi, parce que vous avez demandé du temps à sortir tout ça. Merci beaucoup Alexandra.
Merci à vous.
Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec le collectif pour la préservation des terres agricoles du Ruthénois. Question piège, Alexandra, est-ce que vous savez quelle sera la thématique de la semaine prochaine ?
La thématique de la semaine prochaine portera sur l'accès routier version Luc Laprimobe, version sud.
Pas la route dont on a parlé la semaine dernière avec Adja.
Pas cette route-là, c'est peut-être plutôt les accès routiers de l'autre côté.
Merci beaucoup Alexandra.
Merci à vous.
À suivre tout de suite, Chat alors, comme tous les vendredis.
Bonjour, Emeline Blanc-Gauthier. J'ai fait d'une de mes passions mon métier. Je suis consultante en comportement félin. J'interviens pour anticiper ou résoudre des attitudes félines gênantes pour leur humain. Chaque semaine sur CFM Radio, je vous parle des chats. Aujourd'hui, je reçois Solène, qui est toiletteuse. Bonjour Solène.
Bonjour.
Alors, est-ce que tu peux d'abord nous présenter ton parcours de formation ?
Alors, en 2010, j'ai commencé par faire un certificat de toilettage canin durant 2 ans. Et ensuite, j'ai fait une année supplémentaire, donc un brevet technique de toilettage animalier, pour me spécialiser dans le toilettage des chats.
Dans ton salon à Baraqueville, parce que tu es installé à Baraqueville, tu reçois des chiens, mais aussi des chats. Est-ce qu'ils sont nombreux à venir dans ton salon ?
Oui, les chats, j'ai à peu près un chat pour 10 chiens, en moyenne.
Ce sont des chats de race qui viennent ou des chats de maison ?
Principalement des chats de race, donc des chats à poils longs ou mi-longs.
Quelle race tu reçois ?
Persan, Maine Coon, voilà. Là.
Comment adaptes-tu les soins que tu fais en fonction de la race du chat ?
Alors, tout dépend de la race. Les Maine Coon, par exemple, ça va être énormément de brossage. Le persan, il y a aussi énormément de brossage, mais beaucoup de nettoyage au niveau des yeux, des oreilles. Chaque chat a son toilettage différent.
Comment ça se passe quand on vient au salon ? Comment se déroulent les soins ?
Alors, tout dépend de s'il vit à l'intérieur ou à l'extérieur. La plupart du temps, je coupe les griffes. Ensuite, je démêle s'il y a besoin. Je le mets au bain. Donc, le chat n'a pas peur de l'eau s'il est habitué des petits. Je le sèche. Et ensuite, c'est fini. Ça dure en moyenne 1 heure.
Si le chat n'est pas habitué au bain, comment tu fais ?
Alors, si le chat n'est pas habitué, j'y vais en douceur, petit à petit. Et au fur et à mesure, on s'y habitue. Les premiers temps, il a un peu peur, mais après... En général, ça se déroule bien au deuxième toilettage.
Est-ce que les propriétaires restent avec leur animal pendant le toilettage ?
Alors, tout dépend du caractère du chat. S'il bouge un peu, oui, je demande au propriétaire de m'aider à le tenir.
Les chats que tu reçois viennent à une période particulière ?
Alors, les chats viennent en moyenne 4 fois par an, mais surtout pendant les périodes des mues, donc en octobre. Et ensuite, c'est à peu près en avril, quand ils perdent les poils d'hiver.
Tu recommandes de venir à quelle fréquence ?
Alors, en moyenne, tous les 3 mois, s'il y a un entretien à la maison, évidemment. Sinon, il faut venir un peu plus souvent. tous les mois à peu près.
Et justement, cet entretien à la maison, en tant que propriétaire de chat, qu'est-ce qu'on doit faire ?
Alors, il faut brosser avec des accessoires adaptés, évidemment.
Un accessoire adapté, ce sera quoi ?
Alors, un peigne, une brosse, suivant le poil du chat, s'il est long ou...
Tu as ces accessoires en vente dans ton salon, donc on peut venir te rencontrer pour éventuellement acheter le produit qui conviendra à son animal.
Oui, bien sûr.
Les produits de brossage sont des produits spécifiques aux animaux. Ce ne sont pas les mêmes pour les humains que pour les chiens, que pour les chats.
Non, c'est spécifique.
Quand on a préparé cette chronique, je t'ai demandé le coût de la prestation et j'ai été étonnée que ce soit si peu cher. Est-ce que tu peux nous dire donc combien coûte l'entretien de son animal dans ton salon, en sachant que ça dure une heure ?
Alors, en moyenne, il faut compter 35 à 40 euros.
Tu es installée à Barraqueville. Comment on peut te joindre ? Comment on peut mieux te connaître ?
Alors, je suis dans l'avenue de l'église. Vous pouvez directement venir me voir. Ou sinon, j'ai une page Instagram et Facebook. Donc, au ciseau d'or, Barraqueville. Au ciseau d'or, ça s'écrit O6SIX, os et d'or.
Merci Solène, c'était très intéressant de te recevoir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique Chat à l'or sur CFM Radio. En attendant, rendez-vous sur Facebook et Instagram, Comportementaliste Félin 12, et sur mon site internet comportementalistefélin.com.
Merci Emeline, et à la semaine prochaine. Voilà, c'est déjà la fin du MAC pour aujourd'hui. Rendez-vous lundi pour une nouvelle édition. En attendant, bonne fin de journée à toutes et à tous.